Bonjour.
Buongiorno.
Buongiorno. C'est vous qui avez fait la conférence sur le portrait de Médicis, ça?
Si.
Voilà. Donc j'en ai quelques-uns pour agrémenter l'histoire. Et donc peut-être...
Si può parlare italiano, a me mi piace.
Ah, vabbè. Allora, forse alcuni li ha già fatti vedere lei, però insomma era per illustrare...
Delle cose che sono illustrano le...
No, i personaggi soprattutto di cui parlo.
Sì.
I ritratti, diciamo.
Sì, sì, no, ma, sì, sì, i ritratti ce ne sono... No? Ho fatto una conferenza un'ora e mezzo e ho detto soltanto la metà di quello che volevo dire. Dunque c'era tanto da raccontare, due secoli, perché ci sono due periodi, tanto
c'è
il primo, c'è la storia, ho soprattutto usato, non so se l'ha guardato un po', non ho cercato a guardarlo sul web.
Su?
La conferenza si può vedere sul web?
No, non l'ho vista. Non
perché
ho
dunque c'è ho usato la storia dei maghi, no? Tutti questi quadri, perché piaceva molto a quest'epoca farsi vedere.
Di Benozzo Gozzoli.
Sì, c'è quello di Benozzo Gozzoli che ho passato più tempo di sopra, e poi c'è quello di tutti gli altri.
Sì.
Ci sono tutti gli altri e ogni volta sceglievano di farsi vedere come i re, no? Che vengono.
Sì, come erano rappresentati.
Dunque ho fatto un po' questo. Poi c'è la famosa storia del Papa Giovanni, il Papa che si fa col suo... il famoso quadro che ha mandato anche dai Gonzaga, che è stato rifatto, il quadro dove è seduto con la Bibbia di...
Sì.
Che ha mandato a Firenze davanti al per matrimonio di Giuliano o di, non so...
Sì,
dire.
No, io ho fatto la parte seconda.
E la parte seconda io ho fatto
quella
il minimo perché non c'avevo il tempo. Dunque ho visto un po', ma ho fatto
perché
molto meno.
Perché la mia storia è
sì,
nella parte di Cosimo.
Quello mi interessa perché tanto ho visto diversi... È un po' di moda questa storia del potere e dell'arte. Dunque è chiaro che c'è il famoso... Quando parlo italiano non mi vengono i nomi, dunque è più difficile.
No, è perché...
C'è la storia del palazzo vecchio, dunque, che è stato
sì,
tutto
sì.
Ridecorato da... Come si chiama? Lo storico
sì.
Pittore, dunque.
Sì.
E dunque... Io non ho avuto tempo a farlo in dettagli, poi ho finito con le statue equestre, no? Le statue a cavallo di Francesco, di Francesco I e del suo fratello. No, beh, poi ho fatto anche un po' di scultura. Sì, tanto non so se...
Giorgio Vasari.
Sì, Vasari, certo. Dunque ho fatto come... Ma c'è tanto da dire, ma c'era pochissima gente, sono stato molto deluso, c'era poca gente a venire a sentire.
Meno di questo, meno di oggi?
Molto meno, ma era a gennaio, non so.
Forse dunque, faceva freddo quel giorno.
Sì, faceva
tempo.
Freddo. Dunque, se lo sa che può vederla, la
sì,
conferenza?
Sì, certo.
Se le interessa.
Anche quella della mia amica Agni. Che aveva registrato.
E dunque è chiaro che la storia di Biancacapello l'ho un po' raccontato alla fine, ma insomma molto breve, no?
Sì.
Con l'assassino probabile che hanno fatto
l'analisi,
no? Dei cadaveri.
Sì, sì,
hanno trovato l'arsenico, no?
Il problema è che i medici non hanno mai voluto divulgare la verità.
Sì. Insomma, io aspetto di imparare delle cose dal suo...
Vediamo, grazie.
Sì. Mi interessa molto questo periodo, c'è molte cose da fare. Beh, buona conferenza.
Grazie.
Io ho lanciato questo, voglio essere sicuro, perché una volta ci siamo dimenticati di... No, poi c'è stato anche quella su Savonarola.
Sì,
visto
c'è
che
stata una.
In questo periodo è assai importante anche questo.
Della fine del 400.
Tanto è il periodo interessante. Sto leggendo questo libro molto conosciuto di, come si chiama, Montanelli? Indro Montanelli? Sto leggendo il 600. Ho letto tempo fa la Contro la Riforma. Ha fatto tutti
il 600 in rapporto a Firenze o il 600
in generale? No, il 600 in Italia. È interessantissimo. La storia dice che ci sono state tante poche cose interessanti in Italia, insomma, fai il racconto?
Diciamo che è il periodo della Controriforma,
sì, sì,
quindi
dopo,
l'arte
sì.
è religiosa soprattutto.
Ecco. E dunque lo sto leggendo, lo compro d'occasione sul web. E dunque, ma Indro Montanelli, ho già letto diversi libri, li leggo in italiano, dunque molto
bene.
Piacevole. No, in francese non so se sono stati tradotti.
Non so poi.
In Italia è conosciuto, no, Indro?
Buongiorno.
Pour vous voir mieux.
Vous avez raison. Oui, oui.
Ça va pour vous avoir.
Alors si les marches, tout le monde marche. Ça va, on les a fait 13 minutes d'enregistrement.
Oui, moi aussi, un peu moins, mais...
Oh, s'il y a besoin, si, elle peut, hein, mais t'appuies là-dessus. Hein.
Non, moi j'appuie là-dessus.
Pour faire avancer. Oui,
c'est possible. Ça me complique les choses.
Attends, je vais peut-être prendre ta place parce que, en fait, je vais avoir un petit truc en bas à regarder sur le. C'est quoi ? Je ne peux pas oublier. En fait, cet après-midi, tout partait partout, alors je n'arrivais pas à suivre. Bien, bon, je ne trouve pas, je peux pas le faire, ça fait rien. Bien, ben bonsoir. J'ai oublié mon papier avec tout ce qu'avait fait Graziella depuis qu'elle venait ici. Donc je ne vais pas le rappeler, mais je vous dirai où ça se trouve sur le site. Donc vous pourrez assez facilement le trouver. En fait, comme l'année avance, j'ai de moins en moins de choses à dire par rapport à tout cela. Néanmoins, on va se retrouver dans le 29 avril, ce qui fait 4 semaines. Et nous parlerons d'abord du prochain voyage en Italie qui devrait avoir lieu en 2026, plutôt au printemps. Et puis on parlera aussi de l'informatique à la Corfu, on essaie de faire évoluer un peu et vous y inciter à venir, en particulier du côté de la Corfissimo, qui est le blog qu'on avait lancé à l'occasion du Covid et qui j'ai essayé de relancer. Et on va voir ce qui est possible de faire et comment. On parlera aussi d'intelligence artificielle qui peut être au service des gens qui font des conférences, des gens qui veulent faire des recherches avec les nouvelles méthodes. C'est relativement performant, mais il faut être très vigilant quand même sur ce que nous disent ces chats. Voilà donc pour le 29. Pour le reste, c'est pareil pour le restaurant. On n'a pas encore mis au point l'endroit où on ira au mois de juin. Donc on vous préviendra par email. De toute façon, d'habitude, les candidatures ne commençaient qu'au milieu du mois de mai. Pour le reste, il n'y a rien de très neuf, à part la présence de notre ami Graziella, donc, qui est presque quelqu'un qui est fréquemment à la Corfu, donc, puisqu'on l'avait connu, je l'ai déjà expliqué, je le réexplique, lors du voyage de la Corfu dans les villas palladiennes, c'était vers 2005, j'ai pu regarder la date exacte, mais à un an près, c'est par là. Et depuis, elle est revenue à de nombreuses reprises, cette fois, je crois, pour nous parler de différents sujets sur l'Italie, et souvent sur Venise. Et donc, je ne les ai pas ici. Et je vais lui laisser la parole maintenant pour nous parler de Bianca Capello, une Vénitienne à la cour des Médicis.
Je n'ai pas beaucoup de lumière pour lire.
On n'a pas le micro. Ouais. Je vais te laisser prendre la place quand même. Oui, il y a une lampe. Tout le monde tourne. T'es sûr qu'il marche, là ? Il y a une main déjà qui marche. Ouais, ça marche.
Merci. C'est un peu plus clair. Alors, bonsoir tout le monde. Vous allez me dire si vous m'entendez bien, s'il faut que je m'approche davantage du micro ou si je m'éloigne. Ça va pour l'instant ? Voilà. Peut-être ça va mieux,
c'est
là.
C'est énervant de s'approcher trop.
Alors, buonasera. Questa volta. Alors, oui, l'italien me revient de... mon propos se situe entre Venise et Florence. Donc, toujours un pied dans Venise. Et c'est l'histoire de cette Vénitienne qui, vous allez voir, deviendra grand-duchesse de Toscane. Je prononcerai en italien les noms des interprètes principaux de l'histoire. Par exemple, Bianca, son mari, celui qui deviendra son mari, le prince Francesco de Medici, Francesco I deviendra, Cosimo, son père, et l'archiduchesse Giovanna d'Austria, Jeanne d'Autriche, en fait, hein, la sœur de l'empereur. Voilà, pour le reste, j'essaierai de vous le dire en français. Alors, Bianca Capello est née à Venise en 1548. Elle était fille de Bartolomeo Capello et de Pellegrina Morosini, tous deux appartenant à des grandes familles patriciennes inscrites dans le livre d'or de la République, de la noblesse vénitienne plutôt. Dans le blason, on peut encore le voir. Il est visible au sommet du palais. Ça, c'est Bianca, oui. Les portraits que vous allez voir sont principalement de Titien, celui-ci. Vous verrez le doge Andrea Gritti aussi de Titien. Les autres sont de Agnolo Bronzino, Alessandro Allori et une de Contorno. Voilà, ça, c'est pour les portraits que vous allez voir. Donc, ça, c'est un portrait de la jeune Bianca, encore à Venise. Et c'est un portrait qui avait été fait par Titien. Alors, ça c'est le palais Capello à Venise, qui se trouve dans le sestier de San Polo, à Sant'Aponal, à côté de l'église Sant'Aponal. Il est à côté du Ponte Storto, un pont de travers, on l'appelle comme ça. Et c'est le palais que la famille possédait. Mais la famille possédait aussi à l'époque un grand palais à l'île de Murano, tellement fastueux qu'il avait pu recevoir le roi de France Henri III de passage à Venise en 1574. Il était resté une semaine et notamment à son arrivée, il avait logé à Murano. Parmi les ancêtres de la famille Cappello, celle du père donc, nous trouvons Vittore, qui était un premier grand amiral de la flotte vénitienne, et d'autres illustres membres de la famille qui ont occupé des charges très importantes, sauf le dogado, c'est-à-dire ils n'ont jamais été doges. Par contre, la famille de sa mère, i Morosini, Morosini ont donné 3 doges à la République entre 12e et 13e siècle. On a Domenico Marino et Michele Morosini. Plus tard, mais beaucoup plus tard, Bianca sera già décédé, i Morosini donneront au XVIIe siècle le fameux Francesco Morosini, qui a été un des plus grands amiraux de la flotte vénitienne, qui exceptionnellement, chose unique dans l'histoire de Venise, a été nommé 4 fois grand amiral de la flotte et à la fin de sa carrière, il sera doge, le fameux doge Francesco Morosini. Si vous allez au Corriere à Venise, il y a 2 salles qui sont dédiées complètement à lui. Alors, le rappel historique de sa famille est pour mieux comprendre la figure de Bianca. Bianca n'a pas été la maîtresse arriviste, ambitieuse, qui voulait attirer l'attention du prince régent de Toscane, Francesco de Medici, mais au contraire, elle fut une personne cultivée, pleine de bonnes manières, à laquelle la vie ne tarda pas à lui infliger beaucoup de chagrin, vous allez voir. Alors, la jeunesse de Bianca, malgré le prestige et son rang de naissance, n'a pas été heureuse, car à l'âge de 10 ans, elle avait perdu sa mère, la douce Pellegrina Morosini, que Bianca regrettera toujours avec un souvenir poignant. Son père Bartolomeo, après une année de deuil, parce que ça c'était obligatoire, se remaria avec une veuve riche et noble, Lucrezia Grimani, nièce du doge Antonio Grimani. Ça c'est un portrait de Titien du doge Antonio Grimani. Et donc, Lucrezia Grimani, nièce du doge Antonio, et sœur surtout du très puissant patriarche, cardinal patriarche d'Aquileia, prince d'Aquileia. Mais cette nouvelle femme n'a pas su ni voulu donner de l'affection à la belle-fille de 11 ans. Et Bianca n'oubliera jamais les malheureuses années passées de solitude, surtout passée avec la dure marâtre. D'ailleurs, l'orgueilleuse et aride Grimani l'avait reléguée au 2e étage du palais Cappello, dans une ségrégation presque claustrale, et son père songeait déjà à l'enfermer dans un monastère, au couvent, comme beaucoup de filles de l'aristocratie qu'on ne mariait pas. Grâce à l'aide providentielle de sa tante maternelle, sœur, elle, du doge Andrea Gritti, Bianca échappa à cet enfermement. Et ça, c'est Andrea Gritti. Et commença à fréquenter en cachette le salon culturel de la noble dame et entrer en contact avec le monde intellectuel vénitien de l'époque. La Venise de la première moitié du Cinquecento, c'est-à-dire le XVIe siècle, était un lieu privilégié par le beau monde de la culture italienne et européenne. Des érudits d'hermétisme, de néoplatonisme et de la Kabbalah hébraïque. D'ailleurs, dans la République de Venise, il y avait une liberté de pensée. Et son indépendance de Rome et de l'arrogante domination espagnole favorisait l'arrivée de personnages persécutés par l'Inquisition qui pouvaient finalement exprimer leurs idées, ces mêmes idées qui circulaient sans doute dans le salon de la tante Gritti. Dans son journal intime, on apprend que Bianca aimait l'étude de la musique, des lettres, avec un professeur exceptionnel qui deviendra aussi son précepteur. Il s'appelait Pietro Valeriano Bolzano. Il était arrivé à Venise vers 1550. C'était un humaniste très cultivé, très attaché à la famille Médicis. Il avait été secrétaire des deux papes Médicis, Léon X et Clément VII, et précepteur de Alessandro et Ippolito de Medici. Medici, Médicis, moi je le dirai tantôt en italien, tantôt en français. Et professeur de Giorgio Vasari. Voilà Giorgio Vasari. Bianca suivait ses leçons avec diligence et profit. On raconte que la nuit, quand les lumières du palais paternel étaient éteintes, une gondole allait en cachette prendre Bianca pour l'amener au salon littéraire de sa tante. C'est pendant une de ces réunions que Bianca, âgée de 14 ans, fait la connaissance de Pietro Bonaventuri, un jeune florentin recommandé par Giorgio Vasari, lequel se trouvait à Venise pour travailler auprès de son oncle Giovan Battista Bonaventuri, qui dirigeait le Banco dei Salviati. Alors le banco c'est la banque che les Salviati avaient, et qui était un agent secret du duc Cosimo. D'ailleurs, leur logement était situé juste en face du Palazzo Cappello, du Palais Cappello. Dès le début, Pietro montrera pour la jeune fille une forte sympathie. Il était beau garçon, élégant, et fréquentait la jeunesse vénitienne brillante et libertine. Et tout de suite, il avait été subjugué par la beauté de cette vénitienne, au visage doux et délicat, avec une chevelure blond dorée, la bouche bien dessinée, presque enfantine, avec des petites dents serrées très blancs qui lui conféraient une grâce exquise et charmante. Elle était gentille et intelligente, mais sans une grande culture, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une conversation aimable et brillante. Il est certain que dans cette aventure, qui suscita par la suite tant de scandales, le jeune Bonaventuri joua le rôle du séducteur sans scrupules. Mais il avait offert à Bianca la chaleur et les attentions qui lui faisaient oublier sa condition triste et solitaire. Très vite, ce rapport se consolida. Grâce à la complicité des domestiques attachés à Bianca, émus par ses prières, mais aussi corrompus par les dons du Florentin. Suite au décès de sa tante Gritti, la jeune fille se retrouva seule et terrorisée à l'idée d'un enfermement au couvent déjà décidé par son père. Elle prit alors l'extrême décision de quitter Venise et fuir avec Pietro Bonaventuri. Bon, je la mettrai après. Dans ses mémoires, elle écrira ces mots de ce triste moment. Je laisse une lettre à Catina, qui était sa femme de chambre, qui dormait dans son lit. Et accompagnée d'un serviteur, je vais au ponton où m'attendait Pietro qui me fait monter dans une gondole, qui part aussitôt. J'étais émue de voir le palais de Dogal, enfin le palais ducal, et les coupoles lumineuses de Saint-Marc. Alors mon cœur se serra, mes yeux se remplirent de larmes, et je suis tombée étourdie dans les bras de mon époux. Je vous montre celle-ci, c'est pas quand elle monte sur la gondole, mais ça c'est quand ils sont en train de fuir en Romagne pour gagner après Florence. Alors, après quelques étapes en lagune, c'est-à-dire à Malamocco et au Lido, ils arrivent à Chioggia pour trouver un moyen de transport et passer en Romagne, justement, pour gagner Ferrara, où ils furent accueillis chez l'humaniste Giovan Battista Pigna, qui organisa le lendemain leur mariage. L'ingénue jeune fille, convaincue des sentiments du jeune Florentin et malgré ses 15 ans, accepta cette union qui, un an après, donnera naissance à sa fille Pellegrina. Pendant ce temps, l'ambassadeur des Médicis à Venise, Cosimo Bartoli, envoyait la nouvelle de cette histoire à Florence, qui arriva au bureau des rapports secrets du Bargello, qui était le siège de la police, dans les mains du prince Francesco, l'aîné des fils du duc Cosimo, qui remplaçait son père et l'informait de cette délicate histoire qui faisait jaser aussi à Florence. Le prince Francesco, préoccupé par des possibles tensions qui pouvaient se produire avec la République de Venise, voulut savoir tous les détails et aussi les ragots que l'ambassadeur avait entendus à Venise. Auparavant, l'oncle de Pietro, qui dirigeait il Banco dei Salviati à Venise, avait déjà compris la situation dangereuse et déshonorante où son neveu l'avait traîné, et il avait déjà chassé de chez lui et du Banco Salviati. Mais ensuite, par peur que le neveu soit victime de quelques embuscades de la famille Capello, il avait décidé d'aider la fuite des jeunes gens, afin qu'ils puissent quitter la ville et rejoindre le domaine de Ferrara. À l'aube du 29 novembre 1563, tandis que Bianca laissait pour toujours sa maison et sa ville, le scandale éclata à Venise avec une grande clameur. Son père Bartolomeo Capello demanda à la République de Venise une punition exemplaire pour les ravisseurs de sa fille et leurs complices, qui avaient frappé son illustre famille et invoqué les juges vénitiens à venger son honneur avec une grande sévérité pour punir ces lâches Florentins qui avaient osé atteindre à l'honneur et à l'orgueil des patriciens vénitiens. Il demanda aussi qu'on puisse retrouver vite sa fille pour l'enfermer dans un monastère, afin qu'elle ne reste pas dans cette situation qui portait offense à Dieu, au Capello et à toute la ville. Dans les jours qui suivirent, toute la parenté noble, les Capello, les Morosini, le puissant patriarche d'Aquileia, frère de la marâtre Grimani, avait continué à exercer tant de pression sur le gouvernement vénitien qu'ils réussirent à transformer cette question privée en une affaire d'État. La vengeance des nobles parents mettait au cachot l'oncle Bonaventuri, c'est lui qui tenait le Banco a Venise, Banco Salviati, qui décédera peu de temps après. Mais aussi, il mettait au cachot Giovanna, la chambrière de Bianca, son mari, Marietta, la femme du gondolier, qui avait été tout à son service, à cause de la haine de sa marâtre Grimani, sœur du patriarche, lequel était l'ennemi le plus irréductible et impitoyable du clan familial, et qui l'avait prise dans les dents. Ça, c'est une expression italienne, prendre dans les dents, ça veut dire qu'il l'avait avalé de travers, en fait. Voilà. En 1563, après un voyage aventureux, le jeune époux arrive à Florence, dans la maison du père de Pietro, Ser Zanobi Bonaventuri, où l'atmosphère se fit tout de suite sombre et pesante, à cause de la mort de Giovan Battista, le frère de Ser Zenobi, dans les prisons vénitiennes, mais aussi à cause de la peur d'un attentat vers son fils Pietro, vu la prime alléchante sur sa tête que Venise avait mise, et de l'angoisse de Bianca de finir ses jours dans un couvent. Durant ses premiers mois d'enfermement et d'humiliation, le jeune couple fut convoqué par le duc Cosimo. À la suite de la demande des Cappello, pas du tout apaisé encore, qui sollicitait son intervention dans cette question privée. Le duc Cosimo éprouva tout de suite de la sympathie pour ces jeunes gens et, à cause d'une certaine rivalité avec Venise, leur assura sa protection. Bianca put ainsi faire la connaissance de ce puissant duc en personne. Cosimo Ier, fils de Giovanni dalle Bande Nere e di Maria Salviati, petit-fils de Giovanni il Popolano e di Caterina Sforza, descendant de la branche cadette de la famille florentina, donc pas celle de Laurent le Magnifique, qui s'était terminée, justement, je vais vous dire après. Cosimo avait montré tout de suite d'être un prince astucieux, intelligent et énergétique, et avait su accroître avec habileté son prestige et son influence politique. Dans la famille des Médicis, Cosimo Ier, qui était devenu grand duc après, a été le politique le plus flamboyant, le plus puissant, le plus célèbre. Ça a été vraiment le plus génial, si on peut dire. Soit dit en passant, dans la famille Médicis, il y a trois grandes figures, mais vraiment très grandes. Son père, Giovanni dalle Bande Nere, qui a été le plus grand militaire. C'était un grand capitaine, un grand condottiero. Lorenzo, il Magnifico, point de vue de l'art, etc., comme vous savez. Et Cosimo, le grand homme politique de la famille. Voilà, ces trois personnes sont vraiment les personnages les plus importants des Médicis dans la famille. Alors, pour revenir donc à Cosimo, sa bonne étoile lui avait offert à 18 ans l'occasion d'accéder au pouvoir. Après l'assassinat du duc Alessandro, qui est le dernier descendant de la branche de Laurent le Magnifique, la branche principale, ce qui n'empêchera pas. Donc, le duc Alessandro a été assassiné par Lorenzino de' Medici, qui était son cousin. Ce qui n'empêchera pas Cosimo de faire assassiner justement à Venise en 1548 Lorenzino, l'assassin donc d'Alessandro, qui lui avait ouvert la voie au pouvoir, mais qui restait toujours une menace pour les droits sur le duché. Vous avez compris un peu comment ça se situe, un peu Cosimo. Alors, les jeunes époux, Bianca et Pietro, s'installèrent ainsi dans la modeste maison de famille située sur la place San Marco de Florence, papa de Venise. Elle dut s'adapter à une situation très difficile. Alors, la place San Marco, donc ça, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, excuse-moi. Ça, c'est Alessandro, c'est lui qui a été assassiné. Et ça, ce sont les médailles qui représentent Lorenzino, c'est lui qui a assassiné Alessandro. Alors, les jeunes époux donc s'installèrent sur la place San Marco. Ça, c'est l'église de San Marco, aujourd'hui à Florence. Elle dut s'adapter donc à une situation très difficile de celle que Pietro lui avait fait miroiter, où la délusion et l'abattement prirent le dessus sur la confiance qu'elle avait donnée à son époux. Par la suite, le jeune Francesco de Medici, désormais devenu régent de l'État de Toscane, avait continué à avoir une certaine bienveillance vers Bianca et Pietro. Et quand Ser Zenobi présenta une requête aux Médicis pour être libéré, si on peut dire, de la responsabilité pour la garde de son fils et de sa belle-fille, elle fut acceptée par le prince avec une libéralité qui était alors seulement celle d'un prince bien disposé vers un de ses concitoyens. Pendant cette période incertaine, Bianca, qui était arrivée à la fin de sa grossesse, donna naissance à une petite fille qu'elle appela Pellegrina, du même prénom que sa mère, la douce Morosini, qui lui manquait beaucoup dans cet exil florentin. Elle avait aussi ouvert les yeux avec amertume sur la vraie nature de Pietro, qui avait commencé à manifester de l'ennui et de l'exaspération pour la situation difficile et dangereuse où il s'était retrouvé, sans la contrepartie des avantages de prestige et de richesse qu'il avait espéré, surtout la dot de 6000 ducats de sa femme. Il est toutefois difficile d'établir parmi les nombreuses versions romanesques quand eut lieu le début de la relation de Bianca avec le prince régent, car les Médicis furent toujours réticents à divulguer l'histoire scandaleuse de cette favorite qui deviendra grande-duchesse de Toscane. Mais ces versions mettaient en évidence que la conquête du prince avait été favorisée par la stupidité du mari Pietro, qui par excès de vanité rêvait à des futures grandeurs sur les ruines de l'honneur de sa femme, lesquelles pouvaient lui assurer des privilèges et un confort inespéré. Selon un de ses biographes, la première rencontre de Bianca avec le prince eut lieu sur cette place San Marco, que vous avez vue tout à l'heure, où les Bonaventuri avaient leur demeure. Francesco passait tous les jours avec sa suite pour se rendre aux écuries ducales, édifiées sur cette place à côté de la rue du Maglio, où on élevait 150 chevaux des meilleures races. Il se rendait habituellement avec ses gentilshommes pour des exercices d'équitation, en fait, mais aussi pour observer et suivre la culture des plantes et des fleurs dans le célèbre jardin des écuries dont Giorgio Vasari avait vanté les sculptures qui ornaient les fontaines. C'était le jardin des simples, voulu par le duc Cosimo en 1557, enrichi de plantes rares et de plantes médicinales. Le prince François, Francesco, avait dû apercevoir alors, soit sur la place ou à la fenêtre de sa maison, cette séduisante vénitienne. Je viens en arrière parce que ça, c'est une autre, pour une autre... Donc, cette séduisante vénitienne aux yeux bleus, dont il connaissait par les dossiers secrets du Bargello toute l'histoire romanesque. Nous ne connaissons pas non plus leur première rencontre, mais il est certain que 2 ans après son arrivée à Florence et la naissance de sa fille Pellegrina, la jeune Cappello, âgée de 18 ans, était déjà devenue la favorite du prince régent de Toscane, qui en peu de temps la combla d'un luxe toujours plus éclatant qui retomba aussi sur les Bonaventuri, lesquels commencèrent à acquérir des terrains et des palais et avoir d'autres privilèges. D'ailleurs, son mari Pietro aura un travail à la cour comme chef de la garde-robe. Et en 1567, il avait pu acheter Palazzo Corbinelli, qui est celui-ci, et la villa Latana à Candeli, qui existe toujours. Mais Bianca ne fut pas une conquête facile, même pour un jeune prince charmant. En témoignent les poésies et madrigaux que Francesco lui envoyait avec des mots ardents et soufferts à cause du refus de la jeune vénitienne. Ces poésies si chargées de passion et de désir nous montrent le jeune prince sous une lumière nouvelle, car certains historiens nous le décrivent sous les traits d'un despote, astucieux, mais aussi cruel et pervers, qui encouragea l'exécution de sa sœur Isabelle et de sa cousine Éléonore en 1576. On va en parler tout d'ici peu. Une conquête difficile donc pour Francesco, car la ferme résolution de Bianca à ne pas céder à ses flatteries était dictée soit par sa sévère éducation vénitienne, soit par le souvenir et les conséquences physiologiques de sa première expérience, sans oublier l'affection qu'elle avait pour sa fille et pour son mari. Un mari qui, dès son arrivée à Florence, s'était montré bien différent de celui qu'elle avait connu à Venise, car sa vie déréglée et ses amours faciles étaient en train de l'éloigner d'elle de façon irréparable. Francesco ne se découragea pas et continua à avoir beaucoup d'attention pour elle, et continua aussi à lui envoyer des madrigaux pleins de gentillesse et d'ardeur qui montraient l'amour qu'il éprouvait et qu'il mettait à la première place dans sa vie. Mais à partir de 1565, Francesco, qui était de plus en plus amoureux de Bianca, dut effectuer plusieurs voyages en Autriche, à la cour de Maximilien, car son père, le duc Cosimo, rêvait d'un projet grandiose pour son fils aîné: créer un lien direct avec la famille des Habsbourg, parents de Charles Quint et de Philippe II d'Espagne. Et pour cela, marier son fils donc à l'archiduchesse Giovanna, sœur de Maximilien. Mariage qui ouvrait pour la maison des Médicis des grandes perspectives au niveau international, devenant une des grandes puissances en Europe. Francesco aurait aussi reçu l'ordre de chevalier du Toison d'Or et la reconnaissance officielle du titre de grand-duc qui se concrétisera en 1575. Toutefois, si pour Cosimo la raison d'État avait collé parfaitement avec la raison du cœur, car son mariage avec Éléonore de Toledo avait été parmi les plus heureux et réussis de l'histoire de Médicis. Ici, vous avez un portrait d'Éléonore qui est avec Francesco, son fils aîné, donc, jeune. C'est un portrait qui n'est pas en Florence, il se trouve à Pise, parce qu'à Florence, elle est surtout représentée avec son deuxième fils Giovanni. Alors pourquoi avec un deuxième fils ? Pour montrer que c'était l'héritier de la famille. Mais Giovanni, pour montrer qu'il y avait les suivants, que la famille suivait. Si malheur était arrivé au premier, il y avait les autres qui arrivaient derrière. D'ailleurs, elle a eu 9 enfants. Voilà, donc je disais que pour Cosimo, le mariage avec Éléonore de Toledo avait été parmi les plus heureux et réussis de l'histoire des Médicis. Tandis que pour le jeune prince Francesco, cette union ne se présentait pas de la même façon. Il essaya de s'y opposer, car son cœur était pris ailleurs. Mais son père ne voulut pas entendre raison. Il dut se plier à ses volontés pour ne pas encourir à ses terribles ressentiments, mais aussi à ceux du roi d'Espagne, de l'empereur, et pour ne pas compromettre la tranquillité de la Toscane. Les liens entre la maison des Habsbourg et celle des Médicis représenta un événement de grand prestige politique. Mais le mariage entre Francesco et Giovanna s'avéra tout de suite une faillite douloureuse pour tous les deux. Je reviens un instant en arrière, voilà. Malgré ses 18 ans, l'aspect physique de Giovanna n'était pas du tout captivant. Son visage était maigre et allongé, ses lèvres proéminentes, ça c'est typiquement des Habsbourg, son corps était menu, peu harmonieux, et même ses robes somptueuses n'arrivaient pas à rendre sa figure aimable et gracieuse. S'ajoutait à cela un caractère hautain dû à son rang et à son éducation rigide. Elle n'avait aucun intérêt culturel et ses rares lettres autographes nous montrent l'écriture d'une personne semi-analphabète, avec un orthographe toujours erroné qui ne lui permettait pas de signer correctement ses lettres et qui n'a jamais réussi à parler passablement l'italien. Je ne dis pas correctement, mais passablement. Pour le fastueux mariage, le 18 décembre 1563, entre Francesco et Giovanna d'Austria, le grand-duc Cosimo voulut donner une spectaculaire image de Florence, où les traditions anciennes, la mythologie et l'hermétisme pouvaient se mélanger avec le monde culturel et politique du royaume d'Autriche et de Toscane. Les installations des apparats scénographiques étaient l'œuvre de Giorgio Vasari, qui officiait comme surintendant. Jamais plus fut admiré à Florence autant de splendeur. Mais derrière toute cette merveille se cachait la souffrance de trois personnes, Francesco, Giovanna et Bianca, lesquelles, pour des raisons politiques, avaient dû accepter des rôles bien différents de ce qu'ils avaient espéré. L'union entre Francesco et Giovanna présenta tout de suite des difficultés, car le caractère altier de cette dernière et son aspect physique ingrat ne suscitèrent jamais les attentions de son époux. Après 6 grossesses, 6 filles d'ailleurs, elle n'arrivait toujours pas à lui donner un héritier mâle, et les incompréhensions entre eux augmentèrent toujours plus. Finalement, en 1577, elle donna naissance à un garçon, le petit Filippo de Médici, que là vous voyez, mais qui à l'âge de 5 ans décédera, car il avait une santé fragile, souffreteuse. Et normalement, c'est lui qui devait prolonger la descendance des Médicis. Sa mort prématurée fut pour Francesco une grande douleur et une grande déception. Dans les années si difficiles pour gérer une vie conjugale triste et compliquée, Francesco commença à craindre que Bianca pouvait se lasser de lui, car il ne pouvait penser de vivre sans elle. Elle représentait la beauté, la grâce, la gentillesse et la courtoisie. Et elle écrivait dans ses mémoires qu'auprès d'elle, il oubliait ses soucis domestiques et l'ennui des affaires publiques. Comparée à l'archiduchesse, les qualités de Bianca devaient avoir pour le Médicis une importance particulière, car elle était capable de comprendre sa sensibilité inquiète et le suivre dans le cercle magique de ses fantaisies et de ses passe-temps intellectuels et bizarres. Francesco était un amant de la philosophie, de l'hermétisme, de la nature. Il fabriquait ses médicaments lui-même avec des plantes. Il aimait tout ce qui était naturel, disons. C'était un extravagant pour l'époque, voilà, on dirait. De son côté, le mari de Bianca, Pietro Bonaventuri, ne se souciait pas du tout de garder quelques affections pour elle. Mais au contraire, son impudence et ses désaffections avaient augmenté. Car grâce à la relation princière de sa femme, il pouvait fréquenter les gentilshommes florentins et séduire effrontément leurs femmes. L'amour du prince pour Bianca faisait pleuvoir sur Pietro des bénéfices et beaucoup d'argent. Mais avec sa vie déréglée, le pire finit par lui arriver. Il fut assassiné la nuit du 26 août 1572 en rentrant chez lui par des tueurs à gages de la famille Ricci pour sa relation avec la célèbre courtisane Cassandra, qui était une parente de la famille Ricci. Pour Bianca, la douleur de la perte de son mari était aggravée par l'angoisse pour son avenir, car elle savait que son état de veuve aurait permis à sa famille de lui imposer cette vie monacale tant abhorrée. Malgré tout, la fin tragique de ce mari l'avait beaucoup peinée. Un mari que 9 années auparavant, elle avait aimé, au point d'avoir quitté sa famille et affronté tous les dangers. Elle lui rappelait aussi des sensations lointaines, les espoirs et les rêves d'un temps passé. Bianca alors se prépara à faire front à l'avidité des parents, soit ceux des Florentins, les parents florentins, soit les Vénitiens, qui voulaient mettre les mains sur les grandes richesses et les généreuses donations du prince. Elle put compter sur la vigilance de Francesco, qui sut esquiver celle de Ser Zenobi, le père de Pietro, c'est-à-dire tous les réclamations. Par contre, ce ne fut pas facile de garder à distance son père Bartolomeo Cappello, toujours aussi avide, qui après des années de silence et de dédain, manifestait maintenant un intérêt soudain pour cette fille autrefois bannie. Il lui faisait savoir, par la médiation de certains cousins de Bianca, qu'elle pouvait rentrer à la maison, mais pas avant d'avoir transformé tous ses biens immobiliers en argent liquide, à déposer sans attendre dans les banques vénitiennes, naturellement. Bianca, qui n'était plus aussi craintive qu'autrefois, réussit à affronter son père avec des longues escaramouches épistolaires afin d'obtenir des précises garanties pour son futur. Dans l'éventualité d'un retour à Venise, qui dans cette conjoncture lui semblait tenir à cœur, elle rêvait d'une vie normale, d'un futur plus serein, qui lui rendrait son rang de patricienne, elle qui descendait d'une des plus nobles familles qui gouvernait la puissante république de Venise, alors qu'à Florence, elle n'était plus que l'encombrante favorite du prince et la veuve d'un homme assassiné. Tous ces derniers événements l'avaient frappée durement. Peut-être elle craignait l'hostilité de la grande-duchesse Giovanna, l'humiliation d'autres possibles scandales, la peur des affres du temps qui, à l'approche de ses 30 ans, commençait à se manifester et perdre ainsi l'amour de ce prince sensuel. On peut peut-être la voir encore là, voilà. Et perdre ainsi l'amour de ce prince sensuel passionné de beauté. Mais à la surprise générale, l'amour de Francesco pour elle se manifesta ouvertement en public, avec une ostentation puérile et absurde qui provoqua encore plus les commentaires malveillants des courtisans et du peuple. Francesco avait appréhendé de perdre sa favorita et avait improvisé cette cour romantique et presque obsessive qui était tout le contraire de sa nature réservée et orgueilleuse, pour plier Bianca à son vouloir, la rassurer de son amour et la convaincre d'abandonner l'idée d'un probable retour à Venise. Le 9 avril 1574, le grand-duc Cosimo tomba gravement malade et décéda malheureusement quelques jours après. Francesco obtenait ainsi le titre grand-ducal. Par son beau-frère l'empereur, déjà donné auparavant par le pape, mais qui seulement maintenant avait sa véritable légitimité. Philippe II d'Espagne se plia aux décisions de l'empereur et les Médicis pouvaient se vanter d'être alors les princes les plus puissants d'Italie, malgré les récriminations de tous les autres princes, surtout les Este d'Alphonse II de Ferrara et la maison de Savoie. Avec le prestige du nouveau grand-duc, Bianca aussi augmentait son influence et son pouvoir, au point qu'en ville on chuchotait que les véritables maîtres de Florence étaient la Cappello et le secrétaire du grand-duc. Mais tandis que pour obtenir les faveurs et la protection de la Vénitienne, il suffisait d'avoir sa bienveillance et son estime, pour le secrétaire, il était nécessaire d'ouvrir sa bourse. La grande-duchesse Giovanna avait alors repris à se morfondre dans la jalousie et la rancœur. Et la puissance et l'étalement du luxe de la favorite augmentaient son intolérance et son acrimonie vers le grand-duc, qui n'était pas du tout disposé à lui montrer autant de générosité et d'égard. À rendre plus délicate la position du grand-duc, arriva à l'improviste le premier fait de sang qui avait comme protagoniste les Médicis même. Nous étions en 1776. La première victime était la belle-sœur et cousine de Francesco, la belle Eleonora de Toledo, pas la femme de Cosimo, hein. Ça c'est une nièce, 23 ans, fille de Don Garcia, frère de la duchesse Eleonora, justement, qui, la femme de Cosimo. Elle était mariée à Pietro de' Medici, frère cadet de Francesco, un personnage violent et vicieux qui préférait les hommes. Elle fut étranglée par son époux dans la villa médicéenne de Caffagiolo, selon l'exemple espagnol du délit d'honneur, car elle était accusée d'adultère avec Bernardo Antinori, grande famille florentine. 6 jours après, la deuxième victime était la propre sœur de Francesco, Isabella, mariée à Paolo Giordano Orsini, duc de Bracciano, membre du puissant clan des Orsini, qui était une des plus anciennes familles de Rome. Isabella était une jeune femme de 34 ans, de caractère désinvolte et libre, avec un mari cynique et frustre, souvent absent, lequel, apprenant les infidélités de sa femme, voulut aussi venger son honneur dans sa villa du Cerreto Guidi. Alors, Paolo Orsini n'a pas étranglé lui-même sa femme comme Pietro de Medici, mais il l'a fait étrangler par un de ses sbires. Il aimait sa femme, mais on ne pouvait pas accepter des délits, enfin des offenses pareilles. Alors, Pour le premier meurtre, celui de Eleonora, Francesco a donné aux deux meurtres sa, comment dire, son feu vert, comme on dirait aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, pour le premier, parce que le meurtre, il fallait effacer l'honneur des Medici, puisqu'il était tombé sur Pietro de Medici, membre de la famiglia. Pour Isabella, il donne le feu vert également, parce que la famille puissante des Orsini était une famille qui on ne pouvait pas se mettre à dos. Voilà. C'est une famille de grands militaires, de condottieri dont on avait toujours besoin. Et donc, pour faire plaisir aux Orsini, il a donné le feu vert pour le meurtre aussi d'Isabella. Voilà, ça c'était pour éclairer un peu la chose. Dans cette atmosphère inquiétante de cette période, un mois après, survint la mort du petit Cosimo, 3 ans, qui était le fils de la pauvre Eleonora et de Don Pietro, qui était resté le seul héritier mâle de toute la famille des Médicis. Francesco fut fort affligé, mais en même temps, il attendait avec une grande inquiétude la fin de la grossesse de Bianca, qui était en train de lui donner un enfant. Et en effet, le 29 août 1576, elle mit au monde un fils, Don Antonio de Medici. Naissance qui donnera lieu aux histoires les plus romanesques que le frère et successeur de Francesco, le cardinal Ferdinando de Medici, sera habilement manipulé pour usurper au neveu l'immense héritage paternel. Tant que ses parents vécurent, personne ne douta de la paternité du petit Antonio, et quand Bianca devint grand-duchesse, il fut élevé à la cour et fut considéré par tout le monde le fils des grands-ducs. Mais il n'était pas du tout facile pour un fils né en dehors du mariage d'accéder à la succession, à condition qu'elle soit approuvée et favorisée par le puissant monarque espagnol qui, depuis Madrid, réglait aussi les affaires d'Italie. Quand en 1582 décéda le prince héréditaire Don Filippo, qu'on a vu, le petit garçon maladif que Giovanna lui avait enfin donné, Francesco fera un nouveau testament en faveur du fils de Bianca, donc celui-ci, dans lequel il lui laissait ses immenses fortunes, richesses, et nommait tutrice et curatrice temporaire sa mère Bianca. Bianca, de son côté, possédait déjà à Florence, du vivant de son mari, on l'a vu tout à l'heure, Palazzo Corbinelli in Via Maggio et la Villa Latana, où dans le jardin elle avait créé une grotte rettangulaire avec un grand bassin décoré de coquillages que Francesco ensuite développa dans la grotte du jardin de Boboli. Après la mort de son mari, Pietro, Bianca s'était installée dans le palais des Orti Orricellari, qui avait été l'ancien siège de l'Académie platonique et qu'elle avait acheté à la famille Rucellai. Ce jardin, à la fin du 400, avait déjà été propriété de Nannina de Medici, qui était la sœur de Lorenzo il Magnifico, et de son mari Bernardo Rucellai. Sous la direction de Bianca, ce jardin se transforma dans une complexe machine scénographique où curiosité et stupeur étaient étroitement liées au savoir mythologique hermétique. Voilà deux mystères que Francesco utilisera ensuite pour le parc de Pratolino. Ce n'est pas Pratolino? Non. Alors, je vous le montrerai tout à l'heure. on est encore là-dessus. En 1578, j'aurais pas dû vous montrer mais celle-là, mais vous la regardez tout à l'heure. À cause d'une vilaine chute à la sortie de l'église dell'Annunziata, Giovanna, la grand-duchesse, tomba brutalement avec le visage en avant. Elle fut amenée tout de suite au palais dans un état jugé très grave, car, par malheur, elle était presque au terme d'une ultérieure grossesse difficile, qui, malgré les efforts des médecins, ne put sauver après ni la mère ni l'enfant. Donc, après la mort de Giovanna, les relations entre Bianca et Francesco, donc c'était celle-là, changèrent considérablement. Ils se retirèrent à Pratolino, où le 5 mai 1578 fut célébré en cachette leur mariage, béni par le père Matteo de Bardi, et qui fut tenu secret jusqu'en avril 1579. Là, l'union fut officiellement rendue publique et Bianca fut couronnée grand-duchesse de Toscane. Francesco, auparavant, avait pris contact avec Venise pour obtenir du Sénat vénitien pour Bianca le titre de véritable fille de la République, qui était un titre honorifique qui correspondait à une très haute qualification réservée seulement aux filles de son aristocratie qui se mariaient avec un roi ou un prince. C'était un projet délicat et ambitieux qui pouvait permettre à Francesco de rendre public son mariage avec Bianca et lui offrir le titre de grand-duchesse sans offusquer le pouvoir et la dignité des Médicis. Venise s'était montrée tout de suite favorable grâce à la médiation du terrible cardinal Grimani et son père Bartolomeo Cappello, toujours aussi hautain, se pavanait alors au Sénat pour la belle réussite et l'heureuse conclusion de cette histoire. Depuis Rome, le pape Grégoire XIII, j'ai toujours envie de dire XIIIe parce qu'en italien on dit XIII, Grégoire XIII, s'était empressé de transmettre aux Médicis une lettre de félicitations gentille et affectueuse, malgré les récriminations du cardinal Ferdinando, très hostile à ce mariage. De Rome encore, partait une dépêche du cardinal Cornaro, qui était l'ambassadeur vénitien, pour informer la République de Venise que le pape s'était félicité avec lui pour ce mariage qui rendrait possible, grâce aux Médicis, une meilleure entente entre Venise et le Saint-Siège. Au milieu de tant d'enthousiasme, le cardinal Ferdinando ne pouvait qu'accepter de mauvaise grâce le fait accompli. Depuis l'Espagne, le consentement... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est Bianca, grande-duchesse, avec Francesco. Depuis l'Espagne, le consentement du puissant monarque Philippe II ne se fit pas attendre non plus, car il était fort endetté avec les Médicis pour la somme de 900 000 ducats qu'il leur avait emprunté pour sa guerre avec le Portugal. Par contre, les familles des Gonzague, de Savoie, les Este et les Farnese, ils exprimèrent leur jalousie avec des commentaires acides et quelques inutiles protestations, forcés d'accepter que le détesté Médicis augmentait encore son prestige par le mariage avec une favorite qui, pendant des années, avait donné lieu aux calomnies et aux scandales. Dans les splendides résidences médicéennes, le grand-duc voulait toujours à ses côtés Bianca, la seule qui arrivait à blandir sa mélancolie et ses tourments. Mais sur ces paisibles journées pesait déjà l'ombre d'une amertume et l'inquiétude d'improbables nuits. Car aux cérémonies du mariage et du couronnement, tout le monde avait remarqué l'absence du cardinal Ferdinando. Attribué à d'importants engagements à la curie romaine, absence très remarquée aussi par les ambassadeurs vénitiens. Mais Ferdinando n'était pas homme à assumer en public des attitudes d'intransigeance et de réprimade, surtout si celle-ci pouvait lui causer les éventuelles vengeances de son frère le grand-duc. Sa rigueur morale servait à lui procurer estime et prestige parmi les citoyens les plus dévots. Et de poursuivre ses projets toujours plus tortueux et dissimulés, qui n'avaient rien à voir avec une sévère attitude de l'âme, mais plutôt à des compromis désinvolts avec sa conscience. À seulement quelques mois du mariage, il avait demandé à son frère, donc le grand-duc, une ultérieure somme d'argent pour payer ses dettes qu'il avait à nouveau contractées avec les banques de Rome et celles de Florentin installées à Rome. Vous savez, la vie des cardinaux à Rome était une vie somptueuse, luxueuse et dispendieuse, avec des maîtresses, avec luxe, et donc ça coûtait très cher tout ça. Avec l'eau à la gorge, il avait aussi offert, en gage, pour une période de 2 ans, une partie de ses rentes en Toscane. Mais il n'avait rien pu obtenir de son frère le grand-duc. Toujours de plus en plus exaspéré par le gaspillage et les quêtes de ses parents voraces. Mais Ferdinando était assez rusé pour comprendre que sa nouvelle belle-sœur, si assoiffée d'honorabilité, aurait fait tout son possible pour conquérir sa bienveillance, pour montrer à tout le monde que son beau-frère le cardinal ne désapprouvait pas la nouvelle grand-duchesse. D'ailleurs, tout de suite après son mariage, Bianca faisait savoir au cardinal d'être disposée à l'aider dans l'épineuse question du prêt, lequel accepta volontiers cette offre de médiation afin de se libérer de ses créditeurs. Tout naturellement, Bianca se prodigua à satisfaire les besoins et les désirs du cardinal, lequel, oubliant dédain et grief, s'en retourna en Toscane pour accepter son invitation aux fêtes organisées dans la ville de Poggio a Caiano pour le baptême d'un fils de sa fille Pellegrina. Les dépêches des observateurs informèrent tout de suite toutes les cours italiennes de la paix établie entre les deux frères Médicis et des tendres attentions et cadeaux du cardinal. Puis, malgré tout ce qu'il avait obtenu, il commença sa campagne diffamatoire contre Bianca et à récriminer ouvertement avec l'ambassadeur d'Urbino sur le choix de son frère le grand-duc qui n'avait pas accepté d'épouser Lavinia della Rovere, une femme beaucoup plus digne qu'il lui avait proposé lui-même. Le comportement injuste de Ferdinando, à l'apparence si bénévole, ne dérangeait pas pour le moment la sérénité des grands-ducs et l'illusoire entente des frères Médicis. D'ailleurs, Francesco préférait garder des rapports cordiaux avec son frère, car c'était un important pion à la cour pontificale pour éviter l'éventuelle élection d'un nouveau pape ostile aux Médicis. Le danger d'ailleurs s'approchait, car la santé de Grégoire XIII déclinait toujours plus, et certains princes italiens, comme les Este, les Farnese et les Gonzaga, étaient en train de former une alliance anti-médicéenne et faire converger le quorum des voix sur le cardinal Farnese, traditionnellement ennemi des Médicis, choix alimenté par leur jalousie et leur rancœur. Malgré tout, on essayait d'oublier les soucis dans les fêtes et les passe-temps de cour, dans la sereine atmosphère d'un rapport affectif que le mariage des grands-ducs avait consolidé. D'ailleurs, en 1580, après plusieurs années de travaux, on avait inauguré la villa de Pratolino. Alors, comme elle n'existe plus, je vous ai mis cette représentation, c'est une peinture de Huttens, car la villa de, le parc existe toujours encore aujourd'hui, mais la villa a été détruite par Ferdinand III de Lorraine au début du XIXe siècle. Donc, on avait inauguré cette grandiose villa de Pratolino où les œuvres d'art, les automates et la beauté de la nature formaient un lieu enchanté. L'idée du projet était du grand-duc, mais le génie de Bernardo Buontalenti avait transformé ce lieu désert en un théâtre de délices et de magnificence. Dans le parc que vous pouvez encore visiter aujourd'hui, vous avez la fameuse représentation, que j'ai oublié de mettre, du colosse qui représente l'Apennin, justement, de Bernardo Buontalenti. Montaigne, qui était toujours si réservé avec ses opinions sur Florence, la Toscane et les Médicis, était forcé d'admettre que la beauté de cette villa grandiose était, selon lui, aussi admirable que celle du cardinal Ippolito d'Este à Tivoli, et que le résultat de l'œuvre célébrait tous les cinq sens. De son côté, Bianca avait parfaitement appris son rôle de grand-duchesse de Toscane. Et pour être digne de ce mari raffiné et passionné d'art, elle avait aménagé dans la partie septentrionale de Palazzo Pitti des camerini pleins de peintures, c'est-à-dire des petites pièces, des sculptures, des tableaux d'ébène sculptés. Elle avait aussi deux petits tableaux avec l'histoire de Judith peint par Botticelli qui se trouve aux offices aujourd'hui. Et les nombreux cadeaux reçus lors de son mariage. Par exemple, une rarissime glace cadeau de Philippe II d'Espagne, de la valeur de 6000 ducats, et un tableau en cristal avec le Christ et la Vierge en or massif, offert par le cardinal d'Este. De son côté, Francesco avait enrichi son studiolo de Palazzo Vecchio, une des créations les plus originales du maniérisme, œuvre de son père Cosimo, avec les œuvres de ses artistes préférés, Giorgio Vasari, Alessandro Allori, Jacopo Zucchi, Giovanni Bandini, il Gian Bologna, Bartolomeo Ammanati, etc. E sviluppò la fabbrica, il ouvra aussi ex novo, à la galerie des offices qui avait été commencée par son père. Il développa la fabrication de la célèbre porcelaine médicéenne, porcelaine blanche, qui imitait celle de Chine, dont on ne trouvait pas la composition, mais lui, il réussit à trouver la composition pour créer une porcelaine blanche. Puis il développa le commerce des pierres dures, lié à sa passion pour la recherche naturaliste, malgré que ce fut après le cardinal Ferdinando, quand il deviendra grand-duc, qui fonda le célèbre Opificio de Pierre Dura, très célèbre à Florence et en Italie. Sa passion pour les sciences l'amena aussi à protéger et à favoriser le jeune Galileo, alors âgé d'une vingtaine d'années, qui était en train d'élaborer ses théories sur la gravité des corps. L'exigeant Francesco, marié auparavant à une femme très noble, mais inculte et bornée, ne pouvait qu'être à son aise avec cette nouvelle épouse aimable et intelligente, qui était sensible à tous les arts, qui protégeait les artistes et les intellectuels de la cour médicéenne. D'ailleurs, Torquato Tasso lui dédia des vers inspirés par sa beauté. Bianca n'oublia pas non plus les nombreux monastères de la ville, objet de ses dévotions et de sa générosité, et les devoirs vers les familiers des Médicis. Par exemple, les nombreuses six filles de Giovanna, dont la plus jeune d'entre elles, Maria, qui était à l'époque encore une jeune fille aux cheveux roux dorés, pleine de taches de rousseur, et qui ignorait encore qu'un jour elle sera reine de France. Donc Marie de Médicis est la fille de Francesco et de la grand-duchesse Giovanna. Malgré que Bianca se prodigua pour tous ceux qui avaient besoin d'elle, de son aide, elle ne fut guère aimée par les Florentins. Mais ceux qui la connaissaient bien l'aimaient et l'appréciaient outre mesure. Pour le grand ascendant qu'elle avait sur Francesco, elle ne s'épargna pas pour calmer les esprits et apaiser les désaccords, surtout les ressentiments du grand-duc vers son frère le cardinal, lequel ne perdait jamais une occasion pour tramer contre elle, en payant parfois des personnes qui se prêtaient à ses intrigues malhonnêtes. Quand Francesco s'en aperçut, coupa les rapports avec son frère. Et ce fut encore grâce à Bianca si, avec le temps, les deux frères recommencèrent à se parler. Et au mois d'octobre 1587, le cardinal Ferdinando fut invité par Bianca et Francesco dans la villa de Poggio a Caiano, che vous avez vu tout à l'heure. Et pour Bianca, l'arrivée du cardinal représenta une victoire. Car durant des mois, elle avait prié son mari de laisser de côté les rancœurs vers son frère et de l'accueillir dans leur demeure pour une définitive réconciliation. L'arrivée de Ferdinando, qui avait fait exprès le voyage depuis Rome, semblait débuter dans les meilleures des façons. Et rien ne semblait prévoir les événements tragiques qui, à quelques jours de là, auraient provoqué la mort des deux époux. La seule description détaillée, mais assez superficielle, des jours qui précédaient le malheur subit de Francesco et sa soudaine aggravation nous est rapportée par le nonce du pape Belisario Vinta, qui se trouvait parmi les invités dans la suite du cardinal. Il paraît qu'après une partie de chasse, Francesco était rentré fiévreux et refroidi et ne voulut se soigner qu'avec ses médicaments naturels. Mais dans la nuit du 10 octobre 1587, la fièvre et les douleurs augmentant, on décida d'appeler un médecin. Ce fut celui du cardinal, qui l'assista pendant l'aggravation de la maladie. Je crois qu'il l'a plutôt aidé. À quelques heures de son mari, Bianca aussi commença à ressentir de fortes malaises, qui l'empêchaient de quitter sa chambre, assistée de sa fille Pellegrina. En fait, Bianca et Francesco étaient en train de mourir dans de grandes souffrances, et personne ne souciait pas de la gravité de la situation. Mais la chose la plus terrible fut qu'à Bianca et Francesco furent niées leurs nouvelles réciproques. Ils subirent ainsi, en plus de leurs souffrances, l'ignominie de ce silence forcé causé par le rideau d'isolation et de mensonges instauré par le cardinal à la villa del Poggio. D'ailleurs, avant que le grand-duc expire, le cardinal se dépêchait déjà à courir à Florence pour aller prendre possession des deux forteresses de la ville et se rendre à Palazzo Vecchio pour donner des ordres importants et emporter les coffres forts et l'argent. La mort de Bianca, 24 heures après, n'était pas due à la douleur éprouvée par la mort de son époux, comme on l'a raconté pendant longtemps, car elle était absolument sans nouvelles de ce qui s'est passé autour d'elle. Le pape Sixte V, qui avait de l'affection pour elle, avait tout de suite éprouvé des inquiétudes, surtout à cause de la présence du cardinal dans les lieux, et s'était confié à l'ambassadeur de Venise. La République ne bougea pas, car des voix inquiétantes commençaient à lui parvenir, selon lesquelles le nouveau grand-duc avait chassé du palais Pellegrina et Don Antonio, refusant de reconnaître ce dernier comme véritable fils de son frère défunt. Le doge Pasquale Cicogna, à Venise, qui n'était pas du tout disposé à compromettre une éventuelle entente avec le nouveau grand-duc, donc le cardinal, avait préféré temporiser et remettre toute décision au moment de l'arrivée de l'ambassadeur extraordinaire que Ferdinando s'était dépêché d'envoyer à la République pour communiquer officiellement la mort des grands-ducs. Pour contrer l'avidité de la famille Cappello et éviter les suspects, Ferdinando leur avait montré une générosité de grand prince et en leur laissant à vie les larges donations faites par le grand-duc Francesco. À Venise, plus personne n'osa mentionner les circonstances singulières de la mort de la grande-duchesse. Et personne n'insista non plus pour lui organiser des obsèques solennelles à Saint-Marc. Pour ne pas irriter le nouveau grand-duc, si généreux et si bien disposé vers la République. À Florence, Ferdinando procédait dans son œuvre astucieuse et minutieuse de sauvegarde de sa position et de son pouvoir. Il avait envoyé des ambassadeurs de prestige à l'empereur et à Philippe d'Espagne, et pour parer aux éventuelles réactions de ce dernier, il avait tout de suite adopté une politique philo-française et organisé un mariage avec Christine de Lorraine, qui était la nièce de la reine Catherine, la reine de France, Catherine de Médicis. En fait, Christine de Lorraine était la fille de Catherine de Médicis, Claude de France, qui avait épousé en Lorraine. Donc. D'ailleurs, Christine donnera 9 enfants au cardinal après. Christine avait 24 ans et le cardinal n'avait 40 quand il se marie avec elle. Donc il lui a fait quand même 9 enfants. Alors tout s'était donc bien passé. D'ailleurs, Ferdinando n'avait oublié aucun pion et aucune précaution, même dans le choix de ses hommes de confiance. Il imposa aussi la microscopie du cadavre de Bianca, pratique habituelle seulement pour les princes, pour dissiper tous les doutes. Si la mort de Francesco ne suscita pas tout de suite le soupçon d'un assassinat, celle de Bianca était plus inquiétante, car si elle avait survécu, elle aurait protégé les intérêts de son fils Don Antonio, l'héritier légitime, donc, car selon le testament de son époux, elle devenait la curatrice de son immense fortune, qui pouvait lui assurer la protection de quelques puissants alliés. Ainsi, Don Antonio, resté orphelin à l'âge de 11 ans, fut déshérité de ses titres et de ses biens. Il demeura à la cour jusqu'en 1594, année de son entrée dans l'ordre des chevaliers de Marthe, on l'a un peu poussé, hein, où le célibat était imposé, donc, sans danger pour réclamer des droits à la succession du grand-duché. Donc, Ferdinand était tranquille comme ça. Les obsèques de Francesco eurent lieu en grande pompe, avec un immense cortège jusqu'à l'église de San Lorenzo et dans la chapelle des princes, où il fut enterré à côté de sa première épouse, Giovanna d'Austria. On murmurait à l'intérieur de l'église que seul son ami Bernardo Buontalenti et d'autres personnes qui l'avaient vraiment aimé et estimé avaient le cœur brisé. Les autres étaient alignés autour du cardinal qui songeait déjà à jeter son chapeau aux orties et à se marier avec une digne épouse. Pour sa belle-sœur, il interdit les obsèques publiques et la sépulture dans la chapelle des princes. Elle eut lieu dans un endroit secret et oublié. Après l'autopsie, voulue par le cardinal pour montrer qu'il s'agissait bien d'un décès dû à une grave maladie, les corps furent éviscérés pour procéder à l'embaumement. Les parties molles, placées dans des petits récipients, furent ensevelies sous le sol de l'église de Santa Maria à Bonistallo, qui était une petite église dans un petit pays à côté de la ville de Poggio a Caiano. De la sépulture de Bianca fut chargé l'architecte Bernardo Buontalenti, qui, contrairement à une certaine littérature du XVIIIe et du XIXe siècle, il ne jeta pas les restes de la grande duchesse dans une fosse commune, mais dans un lieu inconnu. À la suite de la découverte d'un nouveau document qui affirmait que les parties internes furent ensevelies dans l'église de Bonistallo, que je vous disais tout à l'heure, quatre universitaires de Florence analysèrent les fragments des deux foies. Il s'agissait de restes modestes, d'un foie féminin et d'un foie d'homme, qui ont été suffisants pour détecter des traces d'arsenic en quantité létale mais pas fulminant, d'où la longue agonie. En 2004, dans le cadre d'un ample projet d'études sur la famille des Médicis, dans la tombe de Francesco, on retrouva des restes organiques dont le DNA était compatible avec celui du foie d'homme, autorisant ainsi une attribution certaine. Toutefois, il a été objecté que les foies pourraient avoir été traitées post-mortem, mais après des ultérieures analyses immunologiques par des autres chercheurs de Pise et Turin spécialisés en toxicologie, ils découvrirent la présence des protéines du Plasmodium falciparum, l'agent de la malaria pernicieuse, et déclarèrent que les grands-ducs décédèrent à cause des fièvres paludéennes. Affirmation contredite par d'autres experts qui l'attribuaient soit à la malaria, soit à l'arsenic. De toute façon, tout le monde avait la malaria parce que la Toscane était très marécageuse à l'époque. Donc, voilà, on n'en saura jamais. Alors, pour conclure, on arrive au règne de Ferdinand Ier, donc le fameux cardinal, qui, malgré tout, sera loué et regretté pendant longtemps. Ce fut en quelque sorte le chant du cygne de la famille des Médicis. Il avait su représenter encore certaines des qualités qui avaient rendu célèbre sa famille, le talent politique et l'amour pour l'art. Après lui, la décadence des Médicis sera inexorable, soit au niveau financier, politique et moral. Le déclin de la famille coïncidera aussi avec celui de Florence, qui ne retrouvera plus l'âge d'or du temps de Cosimo et de Lorenzo le Magnifico. Mais c'est grâce à la donation d'Anna Maria Luisa, sœur du dernier grand-duc Gian Gastone et dernière représentante de la famille, que Florence héréditera de l'immense patrimoine artistique avec toutes les résidences médicéennes que les Médicis ont accumulées pendant des siècles. Désormais, la Toscane deviendra une province autrichienne et en 1737, François de Lorraine, mari de l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, enfin de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, deviendra le nouveau grand-duc, le premier de la dynastie des Habsbourg-Lorraine. Je vous remercie. Alors, c'est le cardinal, qui deviendra donc, qui était devenu le grand-duc Ferdinando Ier, avec le nom de Ferdinando Ier. Vous avez des questions? La question de savoir peut-être pourquoi on ne sait pas encore aujourd'hui la vérité, par exemple, parce que les Médicis n'ont jamais voulu révéler la chose, comme ça a été commis par un des leurs, forcément, ils ont caché ça jusqu'au bout, voilà.
Questions.
Je vais boire un peu d'eau.
Quelle histoire, on pourrait dire. Oui.
La référence finale au décès par les poisons fait penser à toute cette mauvaise réputation que les Italiens ont emmenée à Paris après.
Non, je ne vous entends pas jusque-là. Le poison.
Après, quand on les a retrouvés à Paris à la cour de France. On a soupçonné justement une manipulation de poison.
Mais de toute façon, c'était l'époque où on éliminait facilement avec le poison, donc ça a été de toutes les époques. Là, ça a été peut-être plus éclatant parce qu'en plus, il y avait une composante politique du fait qu'elle était une vénitienne. Venise et Florence ne se sont jamais beaucoup aimées, comme Venise n'a jamais beaucoup aimé Rome. Donc, l'histoire devenait un peu plus compliquée. Alors, quand on éliminait les membres de sa famille, comme je vous ai montré, là, les deux belles sœurs et la cousine, bon, ça passait, c'était histoire courante, je veux dire, hein, parce que même chez les Borgia, hein, on en a fait aussi. Mais là, je vous dis, il y avait cette composante politique avec la République de Venise, qui était quand même puissante à l'époque. Hein, on est au XVIe siècle, Venise est encore puissante. Hein, il faudra attendre le XVIIIe où elle va dégringoler, même le XVIIe, elle va commencer. Et là, on n'aura même plus des doges, des grands doges, mais des doges qu'on appelait des doges décoratifs. Voilà. On n'aura plus les grands amiraux, on n'aura plus tout ça. Donc voilà, cette histoire est restée un peu dans le flou, encore aujourd'hui. On n'a toujours pas trouvé l'endroit où est ensevelie Bianca. Et on le saura peut-être un jour, qui sait.
Mais on a trouvé les foies quand même.
En tout cas, on ne l'a pas, oui.
Donc, il y a quand même le
et puis, on ne l'a pas jeté dans la fosse commune. Voilà. Bernardo Buontalenti, qui aimait les grands ducs, avait fait en sorte qu'elle soit dans un lieu caché, qu'on trouvera peut-être un jour en faisant des fouilles, qui sait. Comme on a trouvé sous l'église de Bonistallo, la petite église de campagne, là, les restes molles, en fait, les restes molles, comme dit, hein, c'est-à-dire les morceaux de foie, d'intestin et tout ça, quoi. Les viscères, puisqu'on les éviscérait pour les embaumer.
Ouais. Juste, c'est pas tout à fait une question, mais par rapport à ce qu'on raconte, on dit toujours que c'est la deuxième branche des Médicis.
La branche cadette.
La branche de Cosme. Mais quand on regarde les arbres généalogiques, mm-hmm. on s'aperçoit que Cosme est le parfait héritier, puisque sa mère, c'est, je crois, une Salvia.
Ah oui, si on remonte en haut, oui, bien sûr.
Qui est aussi la branche principale. Donc Cosme, mm-hmm. en fait, c'est un peu, dans notre époque féministe, il faut quand même dire oui. que Cosme et que tout ce qui vient derrière, c'est le résultat des non, deux branches.
Non, non, c'est toujours la branche cadette, de toute façon.
Même
si tout à fait en haut, bien sûr, l'origine de la famille.
Non, mais par les femmes, non. La mère de Cosme est une des héritières.
Oui,
de
d'accord.
La branche principale.
Mais les femmes n'avaient pas la même.
Oui, mais donc,
bon, d'accord, on le sait. Hein, c'était les hommes qui primaient là-dessus, sur les branches.
Mais génétiquement, c'est
oui, mais c'est sûr qu'au départ, il y en a un qui fera toutes les branches. Quoi. Et de toute façon, au départ, ce sont des banquiers de Mugello, la région du Mugello, qui arrivent à Florence et qui commencent à... Voilà. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais qui est passionnante de toute façon. Qui a donné des grands hommes, des figures un peu moins grandes, volontiers des homicides en famille, hein, pour éliminer celui qui gênait, mais ça se faisait dans d'autres familles, et c'était l'époque, surtout le XVIe siècle, la Renaissance, on avait le couteau et le poison facile. Oui, 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 monsieur.
Je voudrais faire le lien avec une conférence que vous avez donnée en 2018 sur la dernière partie de la vie de Titien.
Oui.
Vous avez dit tout à l'heure que l'Espagne, Philippe II, était très endetté auprès des Médicis. Est-ce qu'on peut dire que cet endettement obligeait Titien à écrire à Philippe II lorsqu'il lui envoyait ses poésies qu'il ne payait pas ? Est-ce que l'endettement, ou pas du tout ?
De toute façon, les empereurs ne payaient pas, ou mal.
Pas du tout.
Donc Titien était obligé, on l'obligeait à travailler. Enfin, l'empereur l'obligeait à travailler pour lui, il ne pouvait pas refuser, dire non à l'empereur, ce n'était pas possible. Mais il savait très bien qu'il payait très mal. Enfin, c'était prestigieux de pouvoir travailler pour l'empereur, celui d'Espagne ou celui d'Autriche. Et souvent, il a envoyé des lettres en se vieillissant, en disant « je suis un vieil homme de 80 ans alors qu'il n'en avait pas 80 et qu'il avait besoin d'argent pour sa vieillesse, ceci, cela, pour apitoyer un peu l'empereur qui, pour le récompenser, il lui a envoyé un titre nobiliaire, il l'a fait comte et chevalier des éperons d'argent, enfin un truc comme ça. » qu'il pouvait mettre dans son blason, mais qui n'était rien pour sa bourse, quoi. Donc, oui, c'était compliqué. Cela dit, il ne faut pas nier que les Médicis ont eu cette période d'or que moi, j'y situe seulement de 500 ans. C'est-à-dire de la moitié du 400 jusqu'au début du 500. C'est là qu'a fleuri. Il ne faut pas oublier non plus que les grands artistes comme Michel-Ange hein, ont travaillé surtout pour Rome, la cour papale. C'est Rome qui nourrissait les grands. Ce n'était pas Florence, ni Milan, ni... Oui, ça allait, ça venait, quoi. Mais c'est Rome, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est les papes. Alors, quand il y avait un pape Médicis, protégeait les siens, quand il y avait un pape Farnèse, protégeait les siens, et un pape Gonzague, pareil, c'était tous ces petits cardinaux qui devenaient papes étaient envoyés à l'âge de 14 ans à Rome pour faire carrière et puis éventuellement devenir pape par la suite, qui enrichissaient leur famille. C'était des histoires d'argent et de pouvoir, il ne faut pas l'oublier, uniquement. La religion, là-dedans, et le bon Dieu n'entrait pas tellement. Si on voulait éliminer, on ne regardait pas tout cardinal qu'il était. Allez, hop, on empoisonne et puis comme ça, je prends la place, quoi. Voilà.
Bien.
Merci,
merci à vous de votre attention.
Nous nous retrouvons dans 4 semaines, ici même, pour la dernière rencontre de l'année.
Bon, allez. C'est bon.